Edouard.
Jacques.
Allez-y, laissez-vous aller, parlez-vous.
Oh, vous savez ce que c'est toujours le premier mot qui est difficile à dire.
Bah, dites le deuxième.
Molle.
Mal.
Bah oui, le premier, c'était couille.
Il y a des jours comme ça, dans la carrière d'un animateur, où on a l'indicible chance de se retrouver face à la personne qu'on admire le plus. Quentin, oh. C'était quand on avait reçu Dave.
Oh, Nina, si tu m'oublies.
C'est pas la personne que j'admire le plus.
Ce duo, je vais pas m'en mettre.
Et bien, chacun son tour. Moi, c'est aujourd'hui, puisque mesdames et messieurs, pour revenir sur la naissance des Guignols de l'info, qui est déjà le programme qui m'a le plus marqué dans ma vie, on reçoit l'auteur historique des Guignols, qui a réussi à faire encore mieux après, en devenant, à mon sens, le meilleur scénariste français.
Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire, déjà.
Non, mais moi je fais ce que je veux. C'est mon émission, donc je le dis. Bonjour Jean-François Alain.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Merci bonjour. D'être avec nous Jean-François cet après-midi sur Inter. Vous êtes donc scénariste, on vous doit les scénarios d'OSS 117. Vous avez aussi créé la série d'Arte au service de la France et on vous en remercie. Mais si on vous invite aujourd'hui, c'est pour évoquer la naissance des Guignols de l'info. Zoom zoom back en 1990, quand vous arrivez sur Canal+, vous devenez un des auteurs des Guignols avec Bruno Gassiot et Benoît Delépine. On va en parler plus en longueur évidemment, mais déjà, ce face-à-face Chirac-Balladur dont on a entendu un petit extrait, ça a été du pain béni pour l'équipe des Guignols à l'époque.
C'était du pain béni, juste une petite parenthèse, c'est très flatteur ce que vous avez dit. Mais je le crois totalement, mais c'est vraiment très gentil ce que vous avez dit en préambule.
C'est vrai.
Oui, c'est du pain béni parce que c'était deux caractères totalement opposés. Et nous, on a un petit peu raté notre coup, Benoît, Bruno et moi, mais je vous raconterai après pourquoi, concernant Chirac. Et c'était du pain béni, ce qui c'est de voir Balladur qui essayait d'avoir un ton un peu populaire, qui essayait d'être proche des électeurs. Et plus la campagne allait, enfin, progresser, moins ça allait pour lui. Donc on a eu des slogans « Vas-y doudou », je me souviens de ça. Et puis de voir Chirac loser, donner perdant, mais à un tel point qu'on lui a demandé s'il ne fallait pas qu'il quitte la campagne. Le loser, c'est toujours un personnage génial en fiction.
Exploité.
Voilà.
Et alors, comment vous arrivez sur ce projet des Guignols naissants? Vous êtes qui à l'époque? Vous faites quoi?
Alors, à l'époque, j'écrivais pour Patrick Timsit, des One Man Show. Et puis, j'étais ami avec un auteur des nuls qui s'appelle Alexandre Pell, voilà, et qui m'a dit, les Guignols changent de formule, ça s'appelait les arènes, ça va s'appeler les Guignols. Et je pense que tu as un ton qui correspond, j'ai envoyé des textes. L'équipe s'est formée, je n'étais pas là moi au tout début, donc je révèle quelque chose. Hein. Et il y avait donc Gouriot, Jean-Marie Gouriot, formidable, hein, les brèves de comptoir, François Rollin, un ex de France Inter, et puis Benoît Delépine. Très rapidement, Gouriot s'est dit, la vie de bureau, c'est pas pour moi. Il y avait Rollin et Delépine, et Rollin était en tournée pour son spectacle, donc Benoît m'a dit, j'aime bien tes textes, est-ce que tu veux faire un petit remplacement de 15 jours?
À quoi ça se joue, un destin?
Ouais, c'est dingue. Et je suis resté 6 ans, mais ça c'était un mois après la création des Guignols, voilà.
Plus qu'une émission aujourd'hui, une fouille archéologique. À la recherche de ce trésor disparu il y a des millions d'années maintenant, et qu'on appelait l'esprit canal, fauché en pleine gloire par un astéroïde nommé Bolloré, retour en 90, quand naissaient les Guignols de l'info, l'émission qui fait que j'ai préféré raconter des conneries à la radio plutôt que de gérer des portefeuilles boursiers des clients de UBS, comme mes origines suisses me destinaient. Alors, à quoi ça ressemblait en 1990 la France? C'était quoi les Guignols de l'info? Il est temps que ces andouilles de la Gen Z découvrent que l'humour a commencé avant Jonathan Cohen. Vous écoutez trop la radio, zoom zoom back, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen en mode Zoom Zoom Back. Cet après-midi, on ajuste le rétro et on se replonge dans une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, un grand cru pour le bon goût, puisqu'en 90, on découvrait la Socadence. Alors là, clairement, les petits cons de la Gen Z, ils la ramènent moins avec leur Taylor Swift. La Socadence, qui n'a pas marché qu'à Nice, van que je dédie à Eric Ciotti, mais partout sur la planète, tous les jeunes se trémoussaient sur ce type de Charles D. Lewis. Tous les jeunes, sauf notre futur rédacteur en chef filloniste Cyril Lacarrière, qui lui, en 90, fixait l'horizon en maudissant son premier amour, Geneviève Tapineau, qui l'avait larguée parce que, je cite, il était trop réac pour elle. Oui, oui.
Il chantait juste à l'époque.
Écoutez, son rêve était trop beau. Écouter Rock Voisine, les yeux dans l'eau, qui plus est l'eau de la base de loisirs de Ponto Combo, à côté du mammouth, et survivre malgré tout. Belle leçon de résilience pour Cyril, qui avait pourtant connu l'extase l'année précédente, quand Geneviève l'avait déniaisé, et que le RPR avait triomphé au municipal, comme quoi la chance peut tourner très vite.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Alors, Jean-François Alain, vous allez nous raconter la naissance des Guignols, vos souvenirs de vos années Canal. Juste le temps de vous présenter ceux qui n'étaient pas nés en 90, ils sont de 91, ce qui ne signifie pas que les événements survenus en 92 n'ont pas eu d'impact sur eux in utero. Prenons par exemple Quentin. Depuis longtemps, les scientifiques cherchent à comprendre et butent sur une énigme. Comment peut-on être à la fois si jeune et si ringard dans ses goûts musicaux ? La réponse nous vient peut-être de la prestigieuse université de Stanford Alençon, où des chercheurs ont réalisé que Quentin avait été conçu le 23 décembre 1990, soit pile le jour de la sortie dans les bacs du tube « Les valses de Vienne » de François Feldman. De là à supputer que Quentin Praland était conçu sur les valses de Vienne, à l'arrière d'une Renault Chamade, avec des housses de siège en billes de bois, il n'y a qu'un pas qu'un jour les scientifiques devront avoir l'audace de franchir. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord sur cette date de naissance, j'ai pourtant fait le calcul exact.
Ah bah non, ça fait 10 mois.
Ah oui, elle a une gestation longue, ouais, madame. Non, je crois le savoir. Quentin, en attendant que tout ça soit officiellement établi, ouais, vous nous entraînez dans les archives de l'INA.
Oui, et puis on peut enlever Feldman. Alors Mandela...
Ah non, on est tellement bien avec
Mandela,
François.
Mandela, libre après 27 ans de prison, c'est en 90, les prémices de la guerre du Golfe et une voiture mythique qui s'arrête. Retour par les sons dans les archives de 1990.
À vos côtés, Jean-François, on pourrait la qualifier de victime collatérale de votre talent. Puisqu'en effet, à chaque fois qu'on entre dans l'enceinte sacrée du bistrot Blériot, notre cantine de quartier, et que je lance très fort parce que j'estime que c'est super original à William, le patron, « Dis donc William, est-ce que ta blanquette est bonne ?» et que ce dernier me répond avec un clé d'œil complice « Ma blanquette est bonne ?» Manon lève les yeux au ciel en soupirant « Ok, boomer !» Manon, si, si, vous le faites, et c'est très désobligeant.
J'aime bien, ouais,
pour tous les fans d'OSS. Manon, chaque vendredi, vous revenez sur une première fois qui a marqué les esprits.
Et aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance d'une série iconique des années 90, Beverly Hills. Oui, mais là, vraiment, ça vaut le mot. La jeunesse dorée de Californie, avec ses jeans Levi's taille haute et ses triangles amoureux, a passionné le monde entier. Chez nous, elle a fait le bonheur des après-midi de TF1. Flashback en fin d'émission.
1990 à la télé, dans les archives de l'INA, et bien sûr en musique, puisque 1990, ce n'était pas que... Eh non, non Quentin, non. Il y a eu d'autres trucs comme par exemple Vogue de Madonna, une chanson qui a une histoire étonnante comme Camille Diao va nous le raconter tout à l'heure. En fin d'émission, Charles Nouveau viendra certainement tenter de gratter un job d'assistant dialoguiste sur un film à notre invité Jean-François Alain. Mais Jean-François, pilier historique des Guignols de l'info depuis 90, quand vous débarquez, ça vient de changer de nom.
90, je suis parti il y a longtemps.
Non, non, mais je sais.
Puis les Guignols
n'existent plus malheureusement, ça.
Oui,
je pense qu'on l'aura remarqué.
Oui, oui.
Quand vous débarquez, ça vient de changer de nom. On l'a dit au début, ça s'appelait les Arènes de l'info. Ça ressemblait à quoi les Guignols cette année-là, en 90, quand vous arrivez, est-ce que ça se cherchait ou bien c'était déjà fort tout de suite ?
Alors, les Guignols en 90, il y a Canal+, qui est rue Olivier de Serres, et nous sommes dans un petit appartement en rez-de-jardin, dans une rue adjacente. Et on n'existe pas, voilà.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on n'existe pas du tout, l'émission n'intéresse pas grand monde, et puis se passe la guerre du Golfe. Il y a la guerre du Golfe, là, il y a une sorte de censure un peu partout, autocensure ou censure, et puis il y a même des chansons interdites à la radio, comme la bombe humaine de téléphone. Ah. Moi, quand on interdit téléphone, ça ne me dérange pas beaucoup, mais voilà. Vous avez balancé sur Feldman, voilà. Et puis nous, on faisait le commandant Sylvestre, qui faisait des briefings de l'armée américaine, on n'avait pas beaucoup de moyens, ça coûte très cher les Guignols à faire, hein, mais pas beaucoup de moyens quand même. Et puis, l'air de rien, on a profité du vide. C'est-à-dire que les gens se sont dit, tiens, c'est rigolo ce qui se passe sur le canal, c'est marrant. Et
ça passait à quelle heure ?
8h-5, enfin 19h55. Et voilà, et ça a commencé à monter par le manque d'humour ailleurs.
Il y avait Bruno Gassiot, il y avait Delépine.
Non, Gassiot est arrivé après. Gassiot est arrivé en 92.
Delépine au départ.
Voilà, Delépine, Rollin et moi.
Rollin et vous, comment vous répartissiez les rôles ? Comment vous travaillez en fait ? Comment vous concoctiez ces sketchs ?
Alors, mon travail principal était de séparer Rollin et Delépine, qui se prenaient le chou tout le temps, parce que François Rollin, qu'on connaît tous très bien, qui a beaucoup de talent, il aime bien par moments titiller les gens, et Benoît rentrait complètement là-dedans. Donc ça c'était mon rôle, de négociateur.
De conciliateur.
Voilà, de conciliateur. Et on se répartissait les rôles suivant ses affinités, c'est-à-dire que suivant, il y a des personnages qu'on aimait, des personnages qu'on aimait moins. Moi je suis davantage dialoguiste, je le dis. Benoît était très fort pour avoir les idées, mais c'est aussi un bon dialoguiste. Et puis Rollin peut avoir des trucs, à l'époque, des trucs absurdes comme la boîte à coucou de Johnny.
Ça c'est Rollin, la boîte à coucou.
Et il nous sort ça, on ne sait pas d'où ça sort, et c'est super drôle, et en même temps tendre. Ouais. Donc on se répartissait, il y a pas de... Disons que l'émission est venue d'une manière très empirique, on a fait les choses comme ça, au fur et à mesure, en les faisant.
Il faut rappeler, pour les plus jeunes qui nous écoutent, et aussi pour Manon et Quentin peut-être, le commandant Sylvestre, par exemple.
exemple. Il y a des jeunes qui nous écoutent, contrairement à ce que dit Rachida Dati.
Oui, tout à fait, vous avez bien raison de le rappeler à ce micro. Le commandant Sylvestre, c'est Sylvester Stallone, enfin physiquement. C'est la marionnette de Stallone, acteur américain emblématique de l'époque, tout musclé, qui incarne l'Amérique triomphante. Oui. C'est le commandant Sylvestre aussi, qu'on lui devient militaire, c'est lui qui est le chef des opérations militaires, en gros, qui explique en tout cas ce qui va se passer. Qui a eu cette idée, par exemple, de se dire, à quel moment on se dit, on va prendre Stallone et on va le faire?
J'ai comme l'impression que c'est Benoît. Ouais. Et puis après, il divisait le monde d'une manière assez simple. Il y avait les bougnoules, les cocos, les pédés, et puis voilà, et il y avait une carte divisée en quatre. Une carte que j'avais chez moi et que j'ai perdue. Alors ça me...
Ça vaudrait cher sur...
Mais je suis malheureux, j'aimerais bien l'avoir aujourd'hui. Et puis, pourquoi Stallone? Parce qu'on n'avait pas beaucoup de marionnettes, ça coûtait cher une marionnette. Donc,
Mais du coup, quand vous aviez une idée d'un personnage, vous alliez le dire pour que la marionnette soit conçue derrière? Comment ça, ça se passait,
après,
ça?
Après, quand le succès est venu, c'est à partir de 91, c'était beaucoup plus simple pour nous.
D'accord.
Le succès est venu vite, du coup.
Le succès est venu très très vite, oui.
Juste un mot, peut-être, pour l'organisation de travail dans la journée, tournez...
Quentin, j'ai du mal à vous écouter après Feldman, maintenant.
il voit François Feldman.
Mais je vois François Feldman, mais bon.
Ça nous fait un point commun. peut-être, juste savoir si vous tourniez l'après-midi, si c'était en direct.
Non, c'était en direct.
Tout était en direct.
Alors, il y a une partie qui n'est pas en direct, c'est le sketch du milieu qui après se sont dirigés vers... ça ressemblait à des petites fictions, d'ailleurs il y a beaucoup de réalisateurs de cinéma de maintenant, actuels.
Ils sont passés par là.
Oui, Martin Bourboulon par exemple. Et le but de ces sketchs enregistrés au départ, c'est physique. C'est-à-dire que les manipulateurs, les marionnettistes ne peuvent pas tenir plus de 2 minutes 30. Physiquement. Voilà. Qui vaut une séquence culte dans Touche pas en poste. Oui, où il y a eu les guignols et où il n'y a pas eu ces 2 minutes 30, 3 minutes respectées.
Et les marionnettes se sont écroulées?
Les gens avaient vachement de mal, parce que c'est extrêmement fatigant. Ils ont les bras en l'air, tout ça. Donc non, c'était purement en direct, sauf ça. Et ce qui fait qu'il y avait une émission anglaise qui s'appelait Spitting Images, qui était très très bien. Et les Anglais ont dit à De Greff, à l'époque, Alain De Greff, que c'était impossible de faire ça en direct. Voilà.
Et vous l'avez fait.
On l'a fait, et les Anglais ont félicité, c'est rare.
C'est un des rares programmes qui mérite vraiment le qualificatif de culte. On continue de zoomer sur 1990 et la création des Guignols de l'Info avec Jean-François Alain, juste après un tube de 90, évidemment. J'ai vu Niagara. Oui.
Si j'y étais, matin et soir, le nez dans la télé, c'est encore. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
7 ans qu'ils ont disparu des écrans, les puristes diraient même plus, et pourtant leur empreinte reste si forte que même Patrick Cohen, l'éditorialiste politique de France Inter, y fait parfois référence dans la matinale.
Putain, 2 ans.
Zoom, c'était cette semaine. Zoom, c'est zoom vrai. Back. Ouais, il a fait, bah, il a cité les guignols d'ailleurs. Zoom, zoom back nous transporte aujourd'hui en 1990, l'arrivée des guignols de l'info sur Canal+. On est toujours avec un de ses auteurs historiques, Jean-François Alain. Jean-François, est-ce que les guignols ont tout de suite marché sur Canal+ en termes de... Ah bah non, j'allais dire en termes d'audience, mais il n'y a pas d'audience. En tout cas, on ne le savait pas.
L'audience, on ne la savait jamais. C'est-à-dire qu'on avait Alain Degreff qui venait dans le bureau de temps en temps, qui faisait... Les gars, enfin, je vais pas l'imiter là, parce que, mais on imitait tous, hein, toutes les voix. Bon, ben, vous avez battu le record d'audience hier, et on savait pas qu'il y avait un record d'audience. On n'avait jamais les chiffres, mais on savait quand on battait le record d'audience.
D'accord, juste ça, on le savait. Voilà. Et il venait souvent dans le bureau, Alain Degreff ?
Oui. Et ça a marché tout de suite, les guignols, y compris les arènes qui ont marché, mais Canal+ n'était pas satisfait du programme. Et après, nous, ça a un petit peu moins bien marché. Et puis après, ça a marché très fort. Mmh. Et il y a eu un truc assez marrant, c'est qu'on a eu, je ne sais plus, l'occasion de 7 d'or ou quelque chose comme ça. On est passé chez Drucker. Et chez Michel Drucker, ça va être le soir.
Michel qui était à ce micro la semaine dernière.
Voilà. Et qui, paraît-il, était très sympa.
Ah bah, c'est
toujours très sympa. Toujours très sympa. Et donc, on passe chez Drucker à 20h30, 20h50, je ne sais pas. Et donc, le lendemain, on fait un carton. Enfin, le lundi, on fait un carton parce que ça fait de la pub. Ça s'effondrait dès le lendemain. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de plafond d'audience.
Un plafond de verre, voilà. Des gens qui vous suivaient ou pas.
Oui, parce qu'il y avait comment s'appelait-il, le bébé de show en face. Et on parle moins du bébé de show aujourd'hui, mais bébé de show devait faire 8 ou 9 millions de téléspectateurs.
Les guignols ont complètement ringardisé le bébé de show quand même.
Enfin, c'était plus trash, non ?
Oui, c'était plus trash, mais ce sont eux qui se sont un peu ringardisés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette espèce de lutte au jeunisme où à l'époque nous étions jeunes, voilà. Et puis l'émission était à la mode, Canal+ était à la mode. Mm-hmm. Et je pense que TF1 leur a dit, bah attendez les gars, faudrait peut-être un peu moderniser. Et c'est là qu'ils ont perdu ce qui faisait leur talent. Il y avait la place pour 2 émissions, une un peu plus chansonnier et une peut-être un peu plus, je sais pas comment dire, urbaine, j'en sais rien, même si c'était pas urbain, mais enfin bon, voilà.
Et justement, est-ce que Canal+, vous donnez toujours carte blanche, ou à partir du moment où vous commenciez vraiment à cartonner, avoir des millions de téléspectateurs, il y avait des sujets sur lesquels vous ne pouviez pas aller, vous aviez des consignes?
Alors, on a eu des consignes dès le début. Ah. Il y a rue Olivier Dessert, je crois. On a eu 3 sièges, hein, Canal+. Bon. Et il y a quelqu'un, c'est l'époque des fax. Donc, il y a quelqu'un du marketing de Canal qui nous envoyait un fax en disant « Voilà les marques dont vous ne devez pas parler. »
Ah.
Voilà, parce que c'était des marques et des annonceurs. Donc, on a fait une émission le soir même avec toutes ces marques. Voilà. Et donc, ce directeur est allé voir Degreff. Degreff lui a dit « Bah ouais, mais bon, t'as fait le con. Voilà. »
On rappelle que Degreff, c'était le patron.
Alain Degreff,
ouais. C'était Alain Degreff.
Voilà, c'était l'équipe André Rousselet comme président. Pierre Lescure, et ensuite Alain Degreff, qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, voilà, quelqu'un à qui on doit beaucoup.
Les guignols, ouais, bof, moi je préférais les minicums, c'était quand même mieux écrit. Une phrase signée Quentin Lhuy, tout à l'heure en conférence de rédaction, qui a choqué toute l'équipe. Vous inquiétez pas Jean-François, je verrai ce qu'il ne soit plus payé ce mois-ci. Néanmoins, on a besoin de lui, car il est le seul ici à avoir les clés de l'INA.
Oui. Hein,
90 aux archives, on vous écoute Quentin.
Bonne et heureuse année 90 à tous. Vive la République, vive la France.
Toujours important de commencer par les vœux du président Mitterrand, qui entame en 1990 sa 9e année au pouvoir. 9 ans, c'est beaucoup et ce n'est rien comparé aux 27 qui viennent de s'écouler en Afrique du Sud. Nous sommes le 11 février 1990.
Premier pas d'homme libre, les portes de la prison Victor Verster sont derrière lui, devant une foule de sympathisants et des cris « Liberté, liberté ». 15h15, heure de Paris, Nelson Mandela vient de quitter sa prison. 27 années de sa vie se sont écoulées, 27 années passées derrière les barreaux.
I stand here before you, not as a prophet, but as a humble servant of you, the people.
Je me tiens debout devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un serviteur de vous, du peuple. La foule l'attend, l'avenir aussi, le monde le regarde, ému, ce géant marchait à nouveau. Pendant que l'Afrique du Sud sort de l'ombre, l'Irak y plonge. Nous sommes le 2 août.
La guerre déclenchée ce matin par l'Irak contre le Koweït, c'est un petit peu David contre Goliath. D'un côté, l'Irak, avec son 1 million de soldats, la plus forte armée du monde, l'une des plus puissantes forces militaires de la planète. De l'autre côté, le Koweït, ce minuscule État, ce minuscule Émirat qui ne compte que 20 000 militaires. Cette région du monde, le Golfe Persique, où se trouvent les très riches Émirats, est un point extrêmement sensible de la planète.
L'armée de Saddam Hussein envahit le Koweït et les caméras filment les tanks, la peur, l'huile qui brûle. La guerre du Golfe ne commencera qu'en janvier 91, mais 90 marque le début d'un conflit qui va s'étirer sur plusieurs décennies. En France, on arrête une voiture, pas n'importe laquelle.
1950, c'est l'explosion des ventes. Le succès est tel qu'il faut 5 à 6 ans pour être livré. L'engouement dure jusqu'en 74, début du déclin. La deux chevaux devient la deux doches, la deux pattes, la voiture écolo des alternatifs allemands.
5 millions d'exemplaires et presque autant de souvenirs, la Dodoche tire sa révérence après 42 ans de bons et loyaux services. Et pendant qu'une voiture s'arrête, un tunnel s'ouvre. Dernier coup de marteau-piqueur.
À mi-chemin entre la Grande-Bretagne et la France, deux marteaux-piqueurs attaquent les 30 derniers centimètres de craie bleue. Une page d'histoire se déchire. Philippe Cosette et Robert Graham Fagg échangent une bonne poignée de main. L'Angleterre n'est désormais plus une île, on peut y aller à pied, ou du moins... s'y faufiler.
Et si on se faufile en Angleterre en 90, on apprend cette nouvelle.
Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years and we're very happy that we leave the United Kingdom.
Margaret Thatcher a donc perdu la bataille après 11 ans et demi de pouvoir. La dame de fer vient d'informer la reine de sa décision. Je pars, a-t-elle dit, car l'unité du Parti conservateur et les perspectives de victoire aux élections générales seront meilleures sans moi. Bref, Madame Thatcher s'en va, victime de son entêtement et chassée par sa propre famille politique.
Comme quoi, même les dames de fer finissent par plier. Le 14 octobre, on se réveille avec cette nouvelle.
7h04.
C'était l'un des plus grands musiciens du XXe siècle, même si certains mélomanes européens lui contestaient ce titre. C'était un véritable dieu pour les Américains. Leonard Bernstein est mort hier dans son appartement de Manhattan à l'âge de 72 ans. Il était connu pour sa direction d'orchestre très exubérante et sa musique personnelle avait fait le tour du monde.
Le maestro américain, compositeur de West Side Story et de Candide, laisse une œuvre immense et une baguette désormais orpheline. J'ai retrouvé une archive de 1983 où justement il n'utilise pas cette baguette, il dirige l'orchestre devant lui sans un geste, juste à l'œil et à l'expression du visage. Ouais, il le faisait comme ça.
Là, il faut nous suivre en vidéo pour comprendre ce que vous voulez faire. Cette incarnation est absolument incroyable.
Le 21 mai 1990, 43e Festival de Cannes.
La Palme d'Or 90, Wild at Heart, de David Lynch. Le film américain Wild at Heart, Sailor et Lula. David Lynch.
I can't believe what's happening. It's a dream come true. Thank you very much.
Un rêve qui devient réalité pour David Lynch, pour Nintendo aussi, car elle aussi apparaît en 90. La Game Boy, qui débarque en Europe, 118 millions d'exemplaires, vendus dans le monde entier. Une révolution qui tient dans 4 piles AA, ajoutez à ça le Club Dorothée qui sort son magazine et vous êtes bien de retour en 1990. Jean-François Alain, la guerre du Golfe a aussi été un sujet traité par les Guignols, on l'a dit tout à l'heure. Vous parliez de l'ambiance décontractée, donc il y a une actualité très lourde d'un côté, oui. Et de l'autre, l'ambiance décontractée au bureau. Est-ce qu'on joue au Tetris?
Ouais, on joue au Tetris, oui.
Ah ouais?
Ah oui, on joue au Tetris, on est complètement accro au Tetris. Oui. Ah oui. J'adore ça. Je joue encore.
Ah, sur la Game Boy ou...
Non, sur mon ordi. Mais,
ouais, d'accord.
Donc comme mon fils me voit, il dit un truc que vous avez dit tout à l'heure, boomer. Voilà, ouais.
On a parlé de la guerre du Golfe qui est vraiment un tournant pour les Guignols qui décollent à ce moment-là. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là que vous commencez à prendre des libertés avec les personnalités publiques au sens où j'entends que quand on fait de l'humour, quand ça commence à bien marcher, on va peut-être un peu plus loin. On sent un peu pousser des ailes et c'est là que vous êtes autorisé des trucs un peu fous.
Alors des trucs un peu fous, oui. Je pense à quelque chose sur Raymond Barre, par exemple.
Ah ben Raymond Barre, on entendait un petit extrait tout à l'heure, mais avec Gunther, ça c'est un des sketchs cultes, effectivement, parce que je pense qu'aujourd'hui, je sais pas quelle chaîne diffuserait ça, mais en tout cas, c'est exceptionnel.
Je ne sais pas. J'ai écrit pour Groland aussi après. Ouais. J'ai des sketchs qui sont en rediff sur les chaînes YouTube de Groland, de Canal, qui sont censurés.
Ah.
Oui, il y a des flous, il y a des coupures, il y a des choses comme ça. Bah, c'est l'époque cette époque-là où on faisait des choses qui aujourd'hui ne passeraient plus. Il y a pas de regret dans ce que je dis parce que je suis pas sûr que tout était forcément bien non plus.
Mais qu'est-ce qui est censuré, vous le savez, des propos, des
des plans sur des pénis, par exemple. Ah. Voilà. Donc je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Voilà. Je me souviens d'un sketch que j'ai écrit pour Groland, effectivement, là-dessus. Et donc, est-ce qu'on se permet... Il y avait quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il ne fallait absolument pas qu'on rencontre, parce qu'à un moment donné, le succès venant, et puis le poids qu'on nous prêtait, qui, à mon avis, était pas réel, mais enfin bon, peu importe, on a eu des sollicitations. On a des hommes politiques qui ont voulu nous rencontrer. François Mitterrand voulait déjeuner avec nous, Jacques Chirac, et on a refusé à chaque fois. Et parce qu'on ne voulait nous parler que de l'image publique des gens, et non pas de ce qu'ils étaient en réalité. Mmh. Voilà. Mmh. Et par exemple, tout à l'heure, je parlais de Rachida Dati, qui est quelqu'un que j'ai rencontré et que j'ai trouvé drôle et sympathique. Mais quand je l'ai entendu l'autre jour sur France Inter...
Ah mais Rachida, dans les couloirs, c'est la plus sympa. Mais c'est juste qu'une fois qu'elle est au micro, on n'est pas forcément d'accord avec
ce qu'elle dit. Donc, imaginez que je sois guignol à l'époque. Qu'est-ce que je fais du personnage de Rachida Dati?
Compliqué.
Exactement.
À suivre, elle avait accroché son poster juste au-dessus de son lit, entre celui de ses deux autres idoles, Billy Crawford et Jean-Luc Lahaye. Évidemment, il est temps de dire la vérité, Manon. Le poster de Dylan. Manon vous raconte la naissance de la série qui a forgé sa libido, Beverly Hills, juste après Green Tea Peng, Watch I'm In, dans Zoom Zoom Zen.
Give it to me, you gotta let me know what I am doing, where I am going wrong. Stop licking us, tell me to my face, here for it now. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid. But they can't do me harm, I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel I'm wrong, so show me what you made of. What you mean, say what you mean to me. What you mean, say what you mean to me. Good thoughts and it shows, by the bits they grow. Jealousy no more, that must have been controlled. Green eyes and they bold, coming from my goal. Grip, grip, it holds, the certain chest it grows. We drip, drip, yeah, we pouring, the monster been ignoring. We sleeping, yeah, we snoring, it's knocking, it's important. Let the rhythm raise your thumb and see, yeah, yeah. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel at home, so show me what you made of.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
En 1990, il n'y avait pas que les guignols de l'info qui triomphaient à la télé. Le petit écran nous proposait d'autres œuvres de qualité comme Navarro et Marc et Sophie.
Marc et Sophie ont lancé comme un défi.
Mon Dieu,
Sardou ?
Ma préférence à moi. Mais c'est une autre série qui vous a marqué, Manon, visiblement.
En 1990, la télévision est l'objet incontournable de tous les foyers du monde entier. Elle est dans les salons, elle se regarde surtout en famille, les émissions, les JT, les guignols, mais aussi les séries télé, La Fête à la Maison, The Cosby Show, MacGyver. Il y en a pour tous les goûts. Seule une catégorie reste encore un peu sous-exploitée, les teen dramas, les séries pour ados. Mais le 4 octobre 1990, la Fox va venir révolutionner ce genre avec le lancement d'une série culte. Beverly Beverly Hills, 90210 en anglais, Brandon, Brenda, Kelly, Dylan, etc. vont faire leur première apparition dans ce feuilleton diffusé en prime time sur la Fox. C'était inédit pour l'époque d'avoir un teen drama quotidien à une heure de grande écoute. Dans ce premier épisode, les Américains découvrent donc la vie de ces jeunes lycéens qui vivent dans le quartier le plus glamour de Californie. L'histoire suit les jumeaux Brandon et Brenda qui arrivent de leur Minnesota natal et qui vont devoir s'intégrer parmi l'élite. Aux manettes de cette série, Aaron Spelling. Il est connu pour avoir produit l'un des soaps les plus emblématiques des années 80, Dynasty. Donc forcément, son nom est un gage de qualité aux yeux du public. Et pour créer la série, il a fait appel à un jeune showrunner d'à peine 30 ans à l'époque, Darren Star, le même qui, 10 ans plus tard, va créer une autre série culte. Sex and the City, évidemment, mais avant donc de partir pour New York, Darren Star a donc pris ses marques à Los Angeles. En 1990, il est scénariste et le boss des programmes des fictions de la Fox le contacte pour participer à l'élaboration d'une série pour adolescents. Pour écrire son projet, Darren Star va s'inspirer de sa propre vie, lui qui est issu d'une famille modeste et qui a dû s'acclimater à la jeunesse dorée pendant son adolescence. Dans la série, il veut aussi aborder les vrais thèmes des ados, ne pas rester en surface. C'est pour ça qu'il parlera des violences sexuelles, de VIH, de consentement, de virginité. C'est novateur pour l'époque. Et l'idée plaît, Aaron Spelling signe avec lui une clause spéciale aussi qu'il rajoute. Sa fille, Tori Spelling, doit être au casting. Elle deviendra l'iconique Donna. Mais la première saison de Beverly Hills est un succès un peu mitigé pour la Fox. 14 millions de téléspectateurs en moyenne, ça paraît énorme aujourd'hui. Des audiences pas mauvaises mais pas fracassantes non plus. Du coup, la chaîne va avoir une idée.
Next Thursday.
Dylan, what if I'm pregnant? Brenda, is there something you're not telling me? I need to break up with you.
90210 The Summer, season premiere.
90210 The Summer. La série va continuer pendant l'été, ce qui n'arrive quasiment jamais. Normalement, c'est la pause estivale. Mais là, la chaîne veut attirer les jeunes qui sont en vacances à ce moment-là. Une stratégie payante puisque la série explose, le phénomène est lancé, les acteurs deviennent de véritables stars. En 1992, Shannen Doherty, Jason Priestley et Luke Perry font même la une du prestigieux magazine Rolling Stone. Les jeunes veulent aussi tous s'habiller comme eux, du coup les enseignes de prêt-à-porter se mettent aux jeans taille haute, aux crop top, aux bombers, les looks de Beverly Hills sont partout, et puis le prénom du bad boy de la série, Dylan, devient même l'un des prénoms les plus donnés pendant les années 90. Chez nous, la série arrive en 1993 sur TF1.
Je m'appelle Brenda et elle, c'est Donna.
À partir de lundi, 18h55.
Elle rythme les débuts de soirée de milliers d'adolescents français qui découvrent à leur tour les aventures de ces lycéens californiens. Mais alors que la série est au sommet, c'est la catastrophe. Son actrice principale, Shannen Doherty, se fait virer. Les rumeurs disent qu'elle est ingérable sur les tournages et qu'une altercation avec sa co-star Jenny Garth, qui joue Kelly, ont été la cause de son renvoi. Les deux actrices diront plus tard qu'elles étaient jeunes et qu'enchaînaient des journées de tournage de 14 heures. Forcément, ça leur mettait une petite pression. Pour remplacer Shannen Doherty, Aaron Spelling embauche la star de Sauvé par le Gong, Tiffany Amber Thiessen. Oui, bah, oui. Je me dis que...
Oui, bah moi j'étais plus Sauvé par le Gong, donc ça me parle.
Dans le rôle de la sulfureuse Valérie, un choix payant puisque la série continue à cartonner. En parallèle, Darren Star et Aaron Spelling étendent leur empire puisqu'ils lancent un spin-off à Beverly Hills centré cette fois-ci sur de jeunes adultes. L'iconique Melrose Place, qui a lancé les carrières de Marcia Cross, la future brigante de camp de Desperate Housewives, et de Christine Davis, qui sera la Charlotte de Sex and the City. Beverly Hills s'est achevée en 2000 après 10 saisons et 293 épisodes. Elle a inspiré énormément d'autres teen dramas. Une suite avec de nouveaux personnages a été créée en 2008 et surtout un reboot avec les anciens a été lancé en 2019. À chaque fois, sans grand succès. Entre-temps, on a fait le deuil de deux des acteurs principaux de Beverly Hills, Luke Perry et Shannen Doherty. Toutes leurs co-stars leur ont rendu hommage. La grande famille de Beverly Hills.
Merci Manon pour cette bouffée de nostalgie, même si, je rappelle, la série culte de 1990, ça reste Marc et Sophie. La grande aventure des guignols de l'info, c'est notre fil rouge cet après-midi avec l'un des auteurs historiques du programme, Jean-François Alain. Jean-François, on a parlé des politiques, on a dit aussi que vous n'hésitiez pas à taper sur les annonceurs de Canal. Il y a aussi une autre particularité des guignols qu'on retrouve nulle part aujourd'hui, c'est que vous n'hésitiez pas à vous moquer de votre propre chaîne, de vos propres patrons. Et oui, c'est comme ça, beaucoup l'esprit Canal, quoi. On se moque de tout le monde, y compris de nous-mêmes. Est-ce que c'est ça?
Ça fait penser à quelqu'un à 7h55, non?
Oh, je ne parlerai pas d'autopromo, mais est-ce que le fait que les guignols se soient arrêtés et de la manière dont ils se sont arrêtés, est-ce que ça vous cause de la peine ou vous vous en foutez royalement parce que vous n'y êtes plus depuis un moment?
Ah non, non, je m'en fous pas du tout. Je m'en fous pas du tout. Et c'est d'ailleurs très amusant et très agréable d'être invité aujourd'hui parce que ça fait quelques temps, je dirais à peu près un an et demi, qu'on me parle beaucoup des Guignols. Mais vraiment beaucoup.
Ça revient.
Oui, on a reçu un prix il n'y a pas très longtemps de l'émission que les gens regrettent le plus. Et puis, ou la plus, peut-être. Et puis, on m'en parle beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et quelqu'un m'a dit un jour, alors je ne prends pas ça au pied de la lettre, même si les compliments comme les vôtres tout à l'heure, ça me touche toujours, hein, mais on m'a dit que la France n'était plus la même depuis qu'il n'y avait plus les Guignols. Alors ça, bon, je ne sais pas. Bon, parce que c'était un humour, comment dire, c'était quelque chose qui fédérait les gens, tout le monde le regardait.
Et on le regardait ensemble, en famille aussi, en ça famille, c'est très différent.
Et ce qui est fort, c'est les gimmicks, parce que j'imagine que quand les gens vous en parlent, c'est les gimmicks des personnages.
Oui.
Papin, c'était mais pourquoi ? Et puis il y avait Chirac manger des pommes,
voilà.
Johnny Hallyday, sa boîte à coucou, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Comment vous trouviez ces gimmicks qui ressortent un peu comme des tubes ?
Justement, en les cherchant pas. Et je pense que c'est ce qui est aussi un peu perdu, ou c'est ce qu'on voit parfois dans des films, c'est la volonté de faire un gimmick. Et trouver un gimmick, c'est juste l'adéquation parfaite entre le personnage et ce qu'il dit. Et puis nous imitions même maladroitement les personnages. Donc c'est ce que je fais aussi quand j'écris des OSS 117. J'imite OSS 117. Très mal, hein, franchement. Mais ce qui fait que quand quelqu'un me surprend dans mon bureau, je suis en train de parler en tapant sur l'ordinateur, c'est un peu ridicule. Mais bon, c'est pas pareil de dire ce bouton est rouge que de dire ce bouton est rouge. C'est pas pareil, voilà.
Et, ça change tout.
Ouais, ça change tout. Voilà, c'est une drôle d'affaire qui nous arrive.
Un petit mot, même si on n'a plus de temps ni quoi que ce soit, mais on s'en fout. Oui. Jean Dujardin pour dire les répliques d'OSS 117. On peut difficilement imaginer une meilleure adéquation entre l'acteur et les mots.
Oui, c'est un acteur.
J'imagine que pour le scénariste, ça doit être fou.
Alors moi, je l'ai écrit pour lui au départ, alors que c'était pas du tout prévu que ce soit lui.
Ah bon ?
Non. C'est parce que les producteurs tournaient Brise de Nice, et je ne connaissais pas très bien Un gars, une fille et tout ça, mais j'adorais le physique de Jean Dujardin. J'adorais ce physique, comment dire, à l'époque il avait 30 ans, mais il était un peu sans âge, c'est-à-dire il avait un physique un peu comme Louis Jourdan, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce genre de comédien
des années 50,
intemporel, voilà. Et puis surtout, il avait... la connerie dans l'œil, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il est beau mec, mais en même temps jamais dupe et pouvant jouer l'imbécile, ça se voyait vraiment beaucoup. Et donc j'ai écrit pour lui. Et quand j'ai donné le scénario au producteur, ils m'ont dit mais t'as écrit pour Jean. Je dis bah oui, ça m'a aidé.
Et ça devait être qui ?
On savait pas.
Ah, il savait pas, il avait une idée fixe.
Mais il n'y a pas une idée. Et puis Jean l'a lu, a dit oui tout de suite, voilà.
Ah,
et il y a des grands, puisque vous aimez les deux, il y a quand même des grands rapports entre Chirac, des Guignols et OSS 117.
Tout à fait, oui.
Ah oui,
c'est vrai. Oui,
il y a plein de points communs. Une sorte d'hédonisme ridicule. Voilà.
À suivre dans Zoom Zoom Back. Lui, en 1990, il était encore un inconnu, alors qu'aujourd'hui. Bref, Charles Nouveau nous a rejoint et sur les dernières semaines, avec des invités comme Jean-François Alain, Alex Berger et Michel Drucker, on peut pas dire qu'on soit foutu de votre gueule, Charles.
Le mec qui a écrit l'OSS 117, le créateur du Bureau des Légendes, et Michel Drucker, Mathieu Noël, essaye de toute évidence de créer des ponts entre la télé, le cinéma et moi-même afin que je quitte cette émission. Bien essayé. Certains ambitionnent d'un jour gagner un César. Mathieu Noël, lui, espère simplement être remercié dans un discours vainqueur. Humilité ou manque de charisme, on ne sait jamais vraiment. Avec les Suisses.
Charles Nouveau, on vous écoutera, on sera tout ouïe tout à l'heure pour votre chronique. Mais d'abord, saluons la seule vraie oreille absolue de cette émission.
Donc,
une personne, oui, parce qu'il faut rappeler que Quentin se prétend, il a l'oreille absolue, alors ce n'est jamais vérifié.
Je l'ai prouvé.
Une personne qui, elle, n'a pas été conçue sur François Feldman, ni par François Feldman d'ailleurs. Bonjour Camille Diao.
Bonjour tout le monde, effectivement. Pas de François Feldman,
du tout. Camille, chaque semaine dans Rétropop, vous revenez sur une chanson qui incarne son époque. Et en 90, la Reine des Charts, c'est pas compliqué, c'est Madonna.
Oui, et le titre s'ouvre sur une question. Mais qu'est-ce que vous regardez ? Et puis, entre cette nappe de synthé immédiatement reconnaissable, on est en mars 90. Madonna est déjà une immense star et un personnage sulfureux. L'année précédente, elle a choqué l'Amérique puritaine avec le clip de Like a Prayer. La voici donc de retour avec un titre qui va se classer numéro 1 dans une trentaine de pays et confirmer son statut de reine de la pop, c'est Vogue. Strike the pose, prenez la pause. Une expression, une injonction même, que Madonna emprunte à une contre-culture très underground, la ballroom. C'est le nom qu'on donne à ces boîtes de nuit d'Harlem à New York qui servent de refuge aux homosexuels et aux personnes trans, noires et latino. Ce monde, Madonna l'a découvert à son arrivée à New York au début des années 80 et on y pratique une danse qui immédiatement la fascine, le voguing. À Allez, Vogue, laisse ton corps bouger sur la musique. Le voguing, donc, qui donne son nom au titre, s'inspire des poses des mannequins dans les magazines de mode. Il incarne le luxe, l'argent, la féminité, bref, tout ce que la société refuse à la communauté ballroom. Et ce n'est pas un hasard si Madonna choisit de mettre cette culture à l'honneur en 1990, quelques années plus tôt, en 82.
A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine.
C'est l'une des toutes premières mentions à la télé américaine d'un mystérieux virus qu'on appelle encore, je cite, la peste gay. Lorsque Madonna sort Vogue en 90, donc, le sida a déjà emporté 100 000 Américains, dont plusieurs de ses amis intimes. Les premières victimes sont des hommes gays, noirs et latinos, ceux-là même qui ont créé la danse voguing. Donc s'emparer de leur culture alors que l'épidémie est en train d'exploser et qu'ils sont plus stigmatisés que jamais, c'est un geste très politique. Et Madonna le fait dans le plus pur style de la house de Chicago. Ça, c'est de la house et c'est la bande-son des ballrooms de l'époque. Vogue, en fait, c'est le tout premier titre de house music à connaître un succès mondial. Et pour le clip, réalisé par David Fincher, le futur réalisateur de Fight Club, la Madonna s'entoure de danseurs castés directement dans les ballrooms. Elle veut les rendre visibles, alors que les pouvoirs publics, qui sont très conservateurs, on sort de l'ère Reagan, se désintéressent de leur sort. Et au mouvement de voguing se mêle un autre hommage. Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich et les autres, toutes les stars de l'âge d'or du cinéma américain, Madonna égrène leur nom, elle emprunte aussi leurs traits, telle une drag queen. En fait, c'est deux imageries qui se mêlent, une culture gay marginalisée qui se hisse au même niveau qu'Hollywood, la fierté de l'Amérique.
Mais est-ce que tout ça a eu un impact concret ?
Eh bien, en août 1990, le Sénat américain adopte enfin une loi pour financer les soins des personnes séropositives. Moi, j'aime à penser que Madonna y a contribué à sa façon. Elle qui participe aussi à des campagnes de prévention, qui organise des levées de fonds pour la recherche et qui ne manque jamais sur scène l'occasion de rendre hommage à ses amis disparus.
This next song I wrote about two very dear friends of mine who died of AIDS.
La lutte contre le sida, c'est le combat de toute la vie de Madonna. Lors de sa dernière tournée, elle affichait encore derrière elle les visages de centaines de victimes de l'épidémie. 35 ans plus tard, Vogue, ça reste l'un de ses titres les plus emblématiques et nombreux sont les artistes à lui avoir rendu hommage. Par exemple, Beyoncé. Ce remix, c'est une déclaration d'amour à Madonna qu'elle qualifie de Queen Mother, la reine mère. C'était en 2022. L'année suivante, une autre superstar, le portoricain Bad Bunny, mon petit chouchou, propose sa propre version de Vogue. Et en fait, c'est pas un hasard, hein. Le chanteur de reggaeton est depuis toujours très engagé pour les droits des personnes LGBT. Bref, la prochaine fois que vous entendrez ces notes de synthé, et bien vous saurez qu'il s'agit sûrement d'un signe de solidarité à l'égard d'une communauté dont les droits sont, en 2025, à nouveau menacés.
Quentin, un peu triste que vous n'ayez pas parlé des valses de Vienne, mais c'était une belle chronique. Merci beaucoup Camille. En toute logique, on écoute à présent Vogue, Madonna sur Inter.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
1990 nous a offert bien des choses, parmi lesquelles on oublie parfois par ignorance, ingratitude ou manque de goût Charles Nouveau, dont c'est l'année de naissance.
Ouais, vous pensiez que j'étais né bien avant, bien sûr. Toute cette sagesse qui émane de moi en permanence vous a induit en erreur. Ça et une hygiène de vie discutable qui fait que lorsque je suis à côté de Cyril Lacarrière, il a l'air plus jeune que ce qu'il est réellement. Un début d'explication au fait qu'il n'ait pas encore exigé mon départ. Charles Nouveau et les guignols de l'info, donc 1990, grosse année pour l'humour francophone. Jean-François Alain, vous n'avez écrit des vannes que pour une seule de ces deux institutions. Il ne tient qu'à vous de remettre cette carrière dans le droit chemin. Mais les guignols, c'était pas mal. Il faut rendre à César ce qui appartient à Yves Lecoq. En grandissant, j'avais l'impression que tout le monde aimait ça, tout le monde avait les refs. C'était un monde avec moins de refs aussi, peut-être. Mais vous, vous étiez la ref. Il y a des figures politiques, on en parlait, hein, dont on garde de bons souvenirs malgré les casseroles, principalement parce qu'on a vu leur guignol faire des chabites à PPDA. Il y a quelques mois, on a reçu François Hollande dans l'émission. On a tous déjà vu François Hollande dans des émissions, dans des interviews, etc. Et pourtant, à cause des guignols, à des moments pendant l'émission, je me disais... Ah, c'est marrant, il est plus vif que ce que j'imaginais. C'est vertigineux d'avoir autant d'influence sur l'imaginaire collectif. Vous pouviez détruire des gens. Hein. C'est un miracle que François Bayrou ait fini à Matignon après ce qu'ils lui ont fait subir. Maintenant, on sait tous que Macron a eu une adolescence sans télévision. Pour certains d'entre nous qui avons eu ce privilège, les guignols de l'info, c'était l'info. Hein. Moi, en quatrième, je regardais les guignols et je connaissais le nom de tous les ministres. Aujourd'hui, il n'y a plus les guignols. Et je suis un peu plus perdu, franchement. Beaucoup attribuent leur disparition à l'acquisition du groupe Canal par Vincent Bolloré. Ici, on est très à l'aise hein, de parler de son influence éditoriale, puisqu'on est sur une antenne où il n'y a jamais eu de litige sur la liberté de ton des humoristes. Ouais, je suis partagé sur Vincent Bolloré, hein, de par le fait que j'aime beaucoup l'humour et la démocratie. Il me dérange un peu, mais de par le fait que j'ambitionne d'un jour exercer un monopole sur plusieurs ports d'Afrique de l'Ouest, j'ai énormément de respect pour son parcours quand même. Hubert Bonisseur de la Batte, que vous connaissez bien, est probablement d'accord avec moi. En attendant mon ascension dans la liste Forbes, je fais passer le temps en regardant des trucs marrants, notamment au service de la France, qui n'est pas seulement ce que se dit notre président tous les jours avant de se masturber en réécoutant ses propres discours, mais aussi une série exceptionnelle créée par notre invité. Et le problème quand tu regardes des trucs marrants et que t'es un peu mégalomane toi-même, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis « Ouais, moi aussi, je vais essayer. » François Bayrou est Premier ministre, il faut croire en ses rêves. Et si par miracle, les trucs que tu as écrits sont amenés à sortir, c'est très possible qu'à un moment, va falloir demander de l'argent au groupe Bolloré. Et c'est là que tu es content d'avoir mis de l'eau dans ton vin dans ta chronique 5 ans auparavant. Hein, après, ceux qui trouvent l'argent, c'est plus les producteurs que les auteurs. Hein, en général, c'est des gens avec moins de scrupules, moins de droiture. Pas étonnant que dans le civil, ce soit le vrai métier de Thomas Croisière. Un type à qui les réussites dans la télévision et le cinéma ont ouvert les portes des chroniques dans Zoom Zoom Zen. Hein, comme quoi, les guignols, il y en a vraiment partout. Désormais, c'est ce qui fait qu'on se demande si les guignols avec un G majuscule auraient été tout aussi pertinents aujourd'hui hein, dans un monde où les gens qu'on nous demande de parodier ressemblent souvent déjà à une parodie, ou même les créateurs de South Park décident de ne sortir des épisodes que sporadiquement parce qu'ils ont du mal à satiriser l'Amérique de Donald Trump. Jean-François Alain, vous avez trouvé la parade. Au lieu de se moquer du présent, vous vous moquez du passé. Hein, les avocats de René Coty envoient moins de courriers que ceux de Sarkozy. C'est beaucoup plus jovial, beaucoup plus universel que de se moquer par exemple du futur, pour lequel il faut bien sûr du second degré, mais il faut aussi aimer l'humour noir.
Merci Charles Nouveau. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci beaucoup Jean-François Alain de nous avoir fait revivre l'aventure des guignols de l'intérieur comme ça. C'est quoi le sketch dont vous êtes le plus fier?
J'aime beaucoup la série Raymond Barre Paris, mais c'est compliqué à expliquer. Donc je sais pas si ça se trouve sur internet. Ouais. On avait fait de Raymond Barre une sorte de produit de luxe et on signait juste Raymond Barre Paris.
Oui, c'était magnifique, c'était très beau. Moi j'en ai un petit, mon favori avec Raymond Barre, c'est il se retrouve dans un shooting photo, mais il y a eu une petite erreur sur la personne.
C'est pas vulgaire, c'est les cadres comme ça, c'est bien, c'est pas vulgaire.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Tu es un grand artiste.
Et lui qui est-ce?
C'est Gunther, c'est rien, tu lui dis bonjour.
Bonjour, monsieur Gunther.
Ah, Gunther, tu es proche de Raymond, tu suces Gunther.
Allô?
Eh oui, Raymond, tu suces Gunther. On n'imagine pas aujourd'hui faire ça avec François Bayrou.
Mais c'est impossible ce sketch. Impossible. Alors, il est de Bruno Gassiot, je le dis.
Toute responsabilité.
Non, mais c'est super drôle, mais il est impossible. C'est impossible à imaginer.
Merci encore Jean-François Alain.
Merci. de m'avoir reçu.
Est-ce qu'un OSS 4 est dans les tuyaux ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Non, non, pas du tout. Pas du tout.
Merci.
Mais je, avec regret, parce que j'adore OSS 117, j'adore le...
Et nous donc ?
Ce que vous disiez tout à l'heure, je parle du passé, mais je, en réalité, je parle du présent.
Non, évidemment.
Voilà, mais non, je sais, non, mais bon, voilà.
Bah Charles, c'est plus simple. T'as raté le coche. Merci encore, Jean-François Alain. Merci à tous les amis, Manon, Camille, Quentin, Charles. Merci à toute l'équipe de Zoom Zoom, Florence Gimalac, Alexia Lacour, Pierre Courade, Lola Over, Romain Bonifaci, Gérald Arnaud, Pierre Courade. À la technique, c'était Florian Dittre. À la réalisation, Antoine Larcher. Nous, on se retrouve lundi pour zoomer sur ces hommes déconstruits que les mascus détestent tant qu'ils les surnomment les soy boys. Même si le soja, c'est dégueulasse, on leur expliquera quand même qu'ils ont tort. Zoom Zoom Zen.